Bienvenue sur la chaîne podcast Netiocast par NetioOne.
Voilà, donc bonjour, bienvenue sur notre podcast au niveau de Netiocast. Donc ça correspond en fin de compte à un nouveau podcast qu'on met en place qui s'appelle « De l'ombre à la lumière ». Donc on est à la recherche en fin de compte de voix authentiques, d'histoires inspirantes à partager avec le monde entier. Donc par rapport à un vécu, un changement de vie radical, par rapport à un parcours professionnel qui a pris un virage inattendu, grâce ou pas à la formation, vous vous êtes réinventé, aujourd'hui vous brillez d'une nouvelle lumière justement par rapport à votre parcours. Et donc aujourd'hui on reçoit Hervé Perrin, qui va nous parler un peu de lui et qui va répondre à nos questions par rapport à cet appel à témoins que nous avons réalisé pour pouvoir gérer ce podcast. Donc déjà, pourriez-vous commencer à vous présenter brièvement? Bonjour Hervé, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement et nous parler de votre parcours avant justement le changement majeur que vous avez vécu?
Bonjour, Hervé Perrin, j'ai 57 ans, j'ai aujourd'hui à peu près 36 ans d'expérience professionnelle et on va dire que le début de la carrière professionnelle a été un petit peu difficile dans la mesure où je suis issu d'une famille où les études faisaient pas trop partie du cursus attendu, donc j'ai arrêté mes études au bac, un bac scientifique, en 1986.
D'accord.
Et puis je suis parti... travailler avec cet outil-là, donc un bac scientifique, ça ouvrait en fait peu de portes finalement. Donc j'ai été travailler en tant qu'opérateur de production au sein d'un grand groupe, Mondial International, durant à peu près 3 ans. Et durant ces 3 ans, ce qui m'a entre guillemets motivé à reprendre une formation, c'est que je ne me suis pas vu faire une carrière d'opérateur de production le restant de ma vie. Donc déjà, en termes de motivation... elle était, ne serait-ce que sur l'intérêt du poste, je pense que j'avais d'autres velléités, d'autres aspirations.
Et oui, il y a des moments où on se pose des questions, forcément, quoi.
Exactement. Quand on est derrière une machine, voilà. En tout cas, j'étais suffisamment jeune pour me poser des questions. Et puis,
avec comme tout jeune aujourd'hui, c'est vrai.
En tout cas, un peu moins.
Voilà.
Et avec un directeur de site qui, sans doute, a vu aussi du potentiel dans le jeune que j'étais, qui m'a plutôt encouragé à reprendre ses études. Et comme j'étais dans une entreprise qui faisait du packaging pour de la confiserie, on va dire presque par logique, j'ai repris un DUT packaging qui était dispensé à l'époque dans une école d'ingénieurs en emballage et conditionnement. Donc, on bénéficiait d'un même éclairage avec un niveau moindre, un bac plus 2 au lieu d'un bac plus 5, mais en tout cas avec un enseignement de qualité.
D'accord. Vous n'avez pas mangé trop de confiserie quand même au passage?
Un tout petit peu quand même.
Un petit peu quand même, hein. On est un petit peu, c'est normal.
Quand on a le palais sucré,
On est au bon endroit.
Exactement. Et puis, j'ai eu l'occasion donc d'avoir ce DUT, de pouvoir rejoindre un groupe pharmaceutique dans lequel j'ai pu évoluer pendant quelques années en tant que technicien packaging. Alors après, c'est sans doute aussi ma personnalité, l'opportunité de rencontre. Au bout de quelques années, du technique, je suis passé du technico-commercial en restant toujours dans la même entreprise.
D'accord, une évolution complètement différente.
Voilà, mais en tout cas avec un regard sans doute un peu plus complet. Et puis, ça m'a donné quelques idées pour continuer à chercher à évoluer. Et comme j'étais vraiment passionné par les aspects technico-économiques des sujets, en ayant un petit peu scruté ce qui pouvait susciter un intérêt chez moi, j'ai postulé pour un master achat et supply chain. Pour vraiment aller jusqu'au bout de la démarche technique, économique et avoir vraiment une vision la plus complète. Donc là, j'ai utilisé le fonds GESIF, le nom de l'époque, pour pouvoir reprendre des études.
Ok, d'accord. Mais qu'est-ce qui a été justement le déclencheur ou l'événement qui a poussé justement à emprunter cette voie, cette nouvelle voie pour vous?
Alors, dans mon environnement proche, quelques acheteurs où j'avoue à l'époque le métier d'acheteur en tant que tel me disait pas grand-chose. Parfois, avec des amis, on peut discuter de nos métiers, et puis il y a certains, on se dit, tiens, peux-tu m'en dire un petit peu plus? Qu'est-ce
Oui.
qui s'est passé? Et puis il y a un ami qui m'a dit, bah non, tu sais, c'est un métier passionnant, si tu as une base technique en plus, c'est super. Enfin voilà, de manière, j'allais dire, assez naturelle, il m'a un petit peu bousculé.
Oui.
Et puis, bah, quand on se fait bousculer à un moment, soit on réagit, soit on réagit pas. J'ai réagi, j'ai été fouillé sur ce que pouvait sous-tendre le métier d'acheteur. Je trouvais des ressorts, en tout cas, moi, qui me convenaient bien.
D'accord. Ben c'est
Le fait
souvent
vraiment.
aussi des rencontres, comme vous dites, c'est des rencontres qui changent des fois la donne, quoi. De rencontrer quelqu'un qui vous pousse, qui vous, comme vous avez dit, hein, qui a titillé un petit peu ce besoin de penser à autre chose, de voir autre chose, quoi.
Exactement. Et puis, en tout cas, j'ai trouvé l'établissement qui moi me convenait en tout cas en termes de formule. Un master qui se faisait en un an vraiment à temps complet pour des gens qui avaient déjà un parcours comme le mien. En plus, j'allais dire des sessions plutôt d'adultes très motivés qui avaient envie vraiment de d'avancer dans leur carrière sans être carriériste pour autant, mais vraiment de progresser.
D'accord.
Et puis piqué au vif, bah, j'ai continué dans la foulée par un master administration des entreprises pour vraiment avoir la vision la plus complète vraiment sur l'aspect financier, gestion du personnel, vraiment avoir le spectre le plus complet en tout cas à mes yeux,
D'accord.
et que là j'ai financé à titre personnel.
Ok, d'accord. Ok. Et comment vous avez géré justement cette transition par rapport à vos nouvelles motivations? Qu'est-ce qui a été vos principales sources de motivation?
Alors, j'irais très égoïstement dans un premier temps déjà avoir une meilleure compréhension, on va dire du fonctionnement de l'entreprise dans le sens le plus noble possible. Si je raisonne en termes de carrière, continuer à progresser de manière à pouvoir avoir quelques opportunités supplémentaires pour continuer à grandir. Et puis sur le plan plus familial, une épouse qui a toujours été aussi à mes côtés pour, entre guillemets, m'encourager dans ce sens-là, ce qui joue
Très
aussi pour
important,
beaucoup,
oui.
puisque si on a le conjoint qui, entre guillemets, encourage, ça donne une motivation supplémentaire.
Exactement, exactement. Le côté familial est très important parce que c'est eux qui nous mettent l'escalier pour monter et qui
Exactement.
voilà et qui nous sécurise pour pas qu'on se casse la figure, quoi.
Ah, puis arrivé à
Psychologiquement, je
ce
parle bien.
stade-là. Absolument. Et puis arrivé à ce stade-là, en tout cas à titre personnel, ça a permis aussi que je sois un peu libéré, puisque mon épouse me dit, bah, écoute, tu as envie de progresser. En tout cas, moi, ça me motive aussi. Je travaille aussi un petit peu plus pour que ça te libère aussi du temps, ce qui fait que c'était plus un projet familial qu'un projet, personnel, entre guillemets.
Tout à fait. Ouais. Ok. Est-ce que vous avez rencontré des obstacles ou des doutes à certains moments et comment vous avez pu les surmonter?
Alors des doutes,
Vous en
oui,
avez eu,
parce
bien
que
sûr.
oui, ah ben si, si, toujours. Par essence, j'allais dire, j'ai toujours ce que j'appellerais le syndrome de l'imposteur. Je me demande toujours si je suis à la bonne place.
Oui,
Donc
ça on l'a tous,
les
hein,
doutes,
c'est vrai.
voilà. Donc les doutes, oui. Après, il faut essayer de les surpasser. Alors avec bah, l'influence de mon épouse, je pense que vous avez bien compris. Ça a
Oui.
permis de les vaincre plus facilement.
Voilà, ou
En tout
de
cas,
les
d'aller de
gérer
l'avant.
différemment, quoi.
Voilà. Et puis après, des obstacles, oui. Parce que, alors, autant je trouve que maintenant, dans les années 2020, enfin 2010-2020, la formation, le fait que ça soit presque inhérent au parcours professionnel, quand
Oui,
vous
ça s'est
remettez ça dans le
démocratisé
contexte,
quand même. Ouais.
voilà. Mais quand vous mettez ça dans le contexte des années 80-90, vous étiez un gentil trublion qui sortait un peu des sentiers battus et bon, je sentais que parfois il y avait une forme d'incompréhension. Donc, oui, des obstacles, on va dire
Quel type
organisationnels.
d'incompréhension, justement, vous parlez d'incompréhension, mais quel type d'incompréhension?
Pour quelles raisons faites-vous cela? Est-ce que c'est de l'ambition démesurée? Est-ce que Vous voulez ma
Donc
place,
les questions que vous posiez vous-même, c'est les autres qui vous les posaient en fin de compte.
Exactement.
Voilà.
Non, mais en plus, de manière très, très précise, parfois, c'est et tu veux ma place ? Non,
oui,
pas du tout,
c'est
j'ai
ça,
juste
oui.
envie de progresser.
Tout à fait, ouais.
Et à la limite, en témoigne mon parcours à titre personnel où là, je vais en profiter pour passer un message aussi d'une manière plus générale, c'est que dans ma génération, changer régulièrement tous les 3-4 ans d'employeur, c'était considéré comme de l'instabilité. Moi, c'est surtout parce que je voyais que le plafond de verre était très très bas et qu'à un moment, si vous voulez progresser, bah, de toute façon, on vous permet pas de progresser parfois dans certaines entités. Donc, c'est l'occasion de continuer à progresser. Bah, il
c'est
faut
ça.
Aller voir dans d'autres structures et bah, ça a permis en tout cas d'avancer.
Oui, c'est vrai. Bah, c'est encore mal vu aujourd'hui. Hein. C'est vrai que quand on voit des CV avec des gens qui ont essayé plein de choses, on dit oulala, là là, c'est quelqu'un qui est pas stable, alors que c'est pas du tout ça. C'est souvent des gens qui ont besoin d'aller voir, d'aller tester, d'aller regarder si voilà, ou d'aller apprendre de nouvelles choses pour se parer pour les choses qu'ils veulent vraiment faire ou le but qu'ils se sont fixés au moment du choix en fin de compte du métier ou du boulot qu'ils voulaient quoi.
Absolument. Et à titre plus personnel, je dirais des fois si les entreprises dans lesquelles on se situe permettent cette évolution, c'est encore mieux parce que vous connaissez la structure, vous avez déjà collaboré avec elle, vous savez que vous avez une valeur ajoutée qui va permettre de, ben, j'allais dire, d'apporter peut-être un son ou des idées nouvelles. Mais parfois, vous avez des structures qui ne le permettent pas. Alors, pour une multitude de raisons, après, peu importe la raison, mais voilà, ça oblige aussi à porter ses regards ailleurs.
D'accord, ok. Et comment vous sentez-vous aujourd'hui, justement, par rapport à ces changements et quels ont été les impacts majeurs sur votre vie personnelle et professionnelle?
Aujourd'hui, je me sens plutôt bien dans la mesure où, bon, déjà, j'arrive à 57 ans, donc si je dois être positif avec un peu d'humour, le plus grand parcours professionnel est derrière et plus devant.
Ouais.
Aujourd'hui, je me contente plus de travailler, je me régale à travailler, d'autant plus que je me suis mis à mon compte depuis 2021.
Mm-hmm.
Donc, j'allais dire, je gère mon emploi du temps, je gère mes sujets, les clients, bah, j'essaye plutôt d'être, j'allais dire, le plus réactif et le plus en proximité, autant que faire se peut, en dépit bah, des événements comme la pandémie qui ont quand même aussi bouleversé beaucoup les entreprises.
Oui.
Mais comme je suis sur un métier achat et supply qui est quand même avec un impact majeur, on va dire strictement financier, ça fait une chose. Mais aussi avec tous les impacts, ce que l'on appellerait aujourd'hui ESG, tout ce qui est environnement, sociétal et gouvernance d'entreprise, la partie achat a un impact important. Donc
d'accord.
Aujourd'hui, en tout cas, moi, je me sens bien dans mon métier parce que je trouve que c'est un métier qui a une vraie valeur ajoutée pour les entreprises, valeur ajoutée d'un point de vue technique, d'un point de vue financier. Et puis, si je raisonne de manière plus égoïste, pour les 7 années qui me restent à travailler pour arriver à 64 ans, j'ai juste envie de me régaler et pas simplement de travailler, mais vraiment apporter mon retour d'expérience.
Oui, vous êtes un passionné, en fin de compte, de votre métier, quoi.
Exactement, si vous me branchez,
voilà.
Il n'y a pas besoin de me brancher longtemps.
Voilà, vous marchez sur batterie.
Exactement. Non, mais en plus, quand on voit les effets... si on revient sur la période du Covid où les entreprises, alors pour plein de raisons, bonnes ou mauvaises, c'est pas le sujet, mais n'ont pas su anticiper, étaient plutôt encore dans un mode, on va dire, très très tendu sur la supply chain. Aujourd'hui, il y a beaucoup de TPE, PME qui ont besoin vraiment d'avoir ce regard d'un peu plus haut pour apporter aussi un peu de recul sur les politiques d'approvisionnement, les politiques de stockage, la responsabilité sociétale des entreprises, etc. Et aujourd'hui, je me dis avec mon expérience, je vois que mon parcours peut apporter quelques éclairages.
Et justement, par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde de l'entreprise, des professionnels, de tout ce qui suit par rapport à politique et autres, l'avenir vous fait pas peur, justement, par rapport à votre métier ou d'autres métiers dans des domaines rapprochés?
Non, je dirais presque au contraire. En tout cas, si je dois raisonner avec un chiffre entre guillemets assez simple, aujourd'hui, quand vous gagnez un point dans les achats, c'est 10 points qu'il faut aller chercher dans le commerce. Mmh. Donc, si les entreprises ont une certaine clairvoyance et se disent « Ok, finalement, les achats, c'est pas juste prendre une carte bleue, aller sur un site marchand, mais ça implique vraiment de revoir nos besoins, la réalité de nos besoins, de savoir anticiper, de savoir aussi valoriser les gens qui sont dans l'entreprise au bon salaire, etc. Enfin voilà, les achats, c'est pas juste les achats. Souvent, enfin, si je reprends la notion de critères ESG, on va parler d'environnement, on va parler d'impact sociétaux, on va parler d'impact de gouvernance d'entreprise. Donc il y a une vraie valeur ajoutée et au contraire, je pense que le fait d'être dans des incertitudes, d'être bien bousculé en ce moment, si on se pose les bonnes questions, on doit pouvoir se poser. Et puis aussi, j'allais dire mettre en place un plan d'action qui convient. Alors à chaque entreprise, bien évidemment.
Bien
mais
sûr.
Mais en tout cas, non, je pense que ça vaut le coup. C'est le moment, j'allais dire, de se poser les bonnes questions, puis de mettre les actions qui conviennent en face.
D'accord. Donc vous me disiez, vous êtes chef d'entreprise depuis 2021, c'est bien ça?
Tout à fait.
Qu'est-ce que vous pensez du rôle du chef d'entreprise? Est-ce que vous vous sentez entouré, accompagné? Est-ce que vous avez aussi justement des obstacles par rapport à ce rôle-là aujourd'hui? Est-ce que vous sentez un écart par rapport à ce qui se passe professionnellement et puis le chef d'entreprise? Comment il est perçu pour vous?
Alors, je dirais, il y a deux regards, en tout cas, que moi, je peux constater. Il y a celui plutôt des profils qui ne sont pas chefs d'entreprise et qui mettent beaucoup de responsabilités ou de, comment je pourrais dire ça, de soucis sur le chef d'entreprise en disant, si le chef d'entreprise ne fait pas cela ou cela, c'est des conséquences pour les salariés. Alors, je dirais, dans une certaine mesure, si on raisonne grand groupe, peut-être.
Oui.
Pour tout ce qui est TPE, PME, absolument pas d'accord, à la mesure où les chefs d'entreprise TPE, PME sont confrontés, je dirais, à des obstacles financiers, organisationnels, qui sont quand même assez importants. Et j'allais dire, la crise du Covid a sans doute impacté de manière
augmenté
assez notoire ce
encore,
sujet.
Oui, tout à fait, oui. Développer encore cette instabilité, oui.
Et d'ailleurs, dans les derniers chiffres que j'ai dû entendre ces derniers jours, vous avez un nombre extrêmement important de chefs d'entreprise qui arrêtent leur activité,
qui
reviennent dans le cercle des salariés parce que, on est arrivé au bout du modèle.
Ou qu'ils se retrouvent sans rien, tout simplement, quoi. Voilà,
c'est
vrai que quand vous parliez justement dernièrement, c'est que les chefs d'entreprise font également peur aux recruteurs, visiblement, parce que... Voilà, c'est comme s'il pouvait pas y avoir deux chefs dans une même société, quoi.
Oui, mais
n'est pas du tout le but.
Après, ça, je pense que, en tout cas, à titre personnel, je pense que c'est aussi un problème du côté du métier des RH.
Oui.
Alors, j'ai passé une petite taquinerie, si vous me permettez.
Allez-y.
Mais RH, pour moi, ça devrait être richesses humaines et pas ressources humaines.
C'est beau, ça.
Et aujourd'hui, je pense que les RH ont une vision extrêmement limitée et encore trop vieille France, trop à l'ancienne. Je pense qu'il faut changer. On a changé
pas
de paradigme
heureusement.
Depuis.
Mais il y en a pas mal.
Mais beaucoup. Mais je pense qu'on a changé de paradigme depuis le Covid. Et je pense que, par exemple, je vais vous citer moi un sujet qui me préoccupe parce que si on fait le lien vraiment entre tous les sujets, tout le monde dit se préoccuper de la planète. Bon, très bien. Comment se préoccuper de la planète sans limitant les effets de la pollution? Alors, ça peut être des choix des industries, des véhicules, etc. Et par exemple, le télétravail, aujourd'hui, pour moi, c'est un moyen très concret de réduire la pollution parce que si vous permettez aux gens de rester chez eux, ils n'ont pas leur véhicule à prendre. C'est un mode organisationnel où moi je l'ai déjà mis en place en faisant des interventions dans des entreprises. Vous avez des productivités en plus de travail qui augmentent de 15 à 20%. Or, je constate que les RH sont absolument pas prêts sur ce sujet-là. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises
c'est une discussion effectivement compliquée encore. Ouais.
Bah, vous avez le dernier chiffre, 84% des entreprises qui étaient passées au télétravail qui reviennent sur cette décision.
Oui.
Parce que je pense qu'en France, on est encore dans un mode où la confiance au niveau des salariés n'est sans doute pas au beau fixe. Voilà, exactement. Alors, c'est ça. Il y a des salariés, effectivement, où vous savez que vous avez une confiance limitée, mais après, bon, voilà, il y a sans doute des garde-fous à mettre en place, mais.
Tout à fait.
En tout cas, voilà.
Ça dépend des métiers, ça dépend des postes. C'est vrai que ça dépend plein de choses. Il y a plein de postes. Le télétravail est d'un point de vue humain est très très compliqué quoi à mettre en place quoi.
Alors je vous dirais oui et non parce que avec le Covid on n'a pas eu le choix. Il y a des métiers où pendant 20 ans on vous a dit que c'était impossible et le Covid est arrivé et on l'a fait.
Tout à fait.
Donc ça veut dire qu'à un moment quand je parle de changement de paradigme c'est aussi plutôt de rester dans des modes de réflexion très anciens. C'est pourquoi on a été capable de le faire avec le Covid. Est-ce qu'il est souhaitable de le faire à 100% ? Non. Est-ce qu'on peut peut-être l'accroître ? Oui. Dans quelle mesure ? À déterminer. Mais ça veut dire qu'à un moment, il faut aussi remettre le sujet sur la table en se posant sans doute les bonnes questions.
Tout à fait. Ben, tout à fait. C'est, ben, vous dites bien, justement, j'avais entendu quelque chose il n'y a pas longtemps qui était très intéressant, justement, d'un point de vue moral. C'est un étudiant qui s'était endormi lors d'une session dans un amphithéâtre avec plein d'autres. Et il y avait une question, en fin de compte, mathématique, technique, assez importante, qui avait été expliquée par le professeur. Et tout d'un coup, cette personne s'est réveillée. Et elle n'a pas entendu, en fin de compte, ce qu'avait dit le professeur avant. Et le professeur avait dit avant, tout simplement, que c'était... qu'il avait noté des choses au tableau qui n'étaient pas résolues parce que c'était impossible de résoudre ces éléments-là, c'était encore des éléments qui n'étaient pas possibles de résoudre. Et ben n'ayant pas entendu ça, la personne s'est dit « tiens, c'est un devoir que je dois faire », il pensait que c'était des devoirs à faire, et il a réussi à résoudre un des problèmes parce qu'il n'avait pas entendu que c'était impossible et que ça n'avait jamais été résolu auparavant. Donc, ce qui veut dire que, d'un point de vue mental, en disant aux gens que c'est impossible, ben, souvent, les gens ne le font pas et ne vont pas chercher des solutions, alors que des solutions, souvent, existent. Et c'est un peu ce que vous disiez, c'est des éléments, voilà, c'était impossible, on disait que c'était impossible, mais il y a des choses qui peuvent se faire quand même, à partir du moment où on se retrouve confronté au problème. Quoi. Voilà, c'est juste un petit écart.
mais je vous rejoins. Mais je vous rejoins, en fait, même dans mon métier, aujourd'hui, je le constate, vous avez plein d'entreprises, enfin, un certain nombre d'entreprises qui ont, a priori, du mal à s'approvisionner.
Oui.
Pour une multitude de raisons. Et moi, je sais que c'est aussi un peu mon cœur de métier aujourd'hui. Et quand les entreprises, j'ai le bonheur de pouvoir collaborer avec elles, je leur dis, bah, écoutez, on va voir ce qu'on peut faire. Et très, très, très souvent, allez, on va dire à 95% des cas, je trouve ce dont elles ont besoin. Alors, pas que je fasse de miracle, hein, c'est juste que quand on a un certain âge, on a aussi un réseau, que le réseau, quand on le met en action et qu'il est, entre guillemets, pas juste à l'action, mais qu'on l'entretient depuis 10, 15, 20, 30 ans, on arrive toujours à trouver des solutions. Donc après, voilà, c'est quel est le regard que l'on porte sur chaque situation.
Exactement. Eh bien justement, donc si vous aviez des conseils à donner à quelqu'un qui traverse aussi une période de doute ou d'incertitude, ben ça serait quoi pour vous?
Alors, je dirais un peu comme je l'ai dit précédemment, ne pas hésiter à se poser, à une véritable introspection sur les objectifs, les valeurs, pour reprendre, j'allais dire, peut-être quelque chose d'assez banal, comme on se voit à 5 ans, 10 ans, 15 ans, que l'on a envie de faire à titre professionnel, à titre familial, tenir compte aussi de l'évolution de ce qu'il y a autour de nous. On a un contexte au niveau légal qui est en train d'évoluer sur les retraites, sur une multitude de sujets. Ben voilà, ça vaut le coup de se poser, se dire voilà, j'ai envie de faire quoi, pourquoi, qu'est-ce qui me motive, se dire que sur le principe, et en tout cas moi je trouve que c'est encore plus vrai aujourd'hui qu'avant, rien n'est impossible. Après, c'est comment on arrive à construire un projet de manière à ce que on soit pas non plus faut pas se sous-estimer, mais il faut pas non plus se surestimer.
Tout à fait.
Voilà, c'est un moment. Quels sont les objectifs que l'on a envie d'atteindre? Quel est le plan de bataille, entre guillemets, qu'on va construire pour atteindre ce but?
S'en donner les moyens, quoi.
Exactement. À un moment, de toute façon, on n'a pas le choix, il faut se retrousser les manches.
Voilà, tout à fait. Mais surtout, ne pas flancher, surtout, parce que souvent, on abandonne, souvent, il y a des abandons en cours de route ou autre, et puis, on voit que ceux qui réussissent, ceux qui sont à l'aise après, ceux qui justement se sentent bien dans leur boulot et autres, c'est ceux qui sont allés jusqu'au bout, ceux qui ont poussé les portes et ceux qui sont allés chercher des solutions et ceux qui n'ont pas abandonné au moment où peut-être c'était le moment où ça tournait et ça venait enfin, quoi. C'est ça qui est des fois ce qu'on entend beaucoup, quoi. On entend beaucoup de gens qui ont abandonné, qui ont arrêté. Alors bien sûr, il peut y avoir plein d'autres soucis autour. Hein. Tout est relatif. Mais disons que si on s'est fixé un but, faut aller au bout. Après, ça n'a pas marché, c'est une autre histoire. Voilà. Et est-ce que vous avez aujourd'hui des projets ou des aspirations pour l'avenir que vous souhaiteriez partager justement avec nos auditeurs?
Écoutez, je dirais qu'aujourd'hui, alors ça va peut-être vous faire sourire, mais étant moi-même un senior dans la classification qui se fait aujourd'hui, je constate qu'on dit qu'on veut préserver les seniors. Dans les faits, moi aujourd'hui je le constate, en fait, on les pousse vers la sortie dans de nombreuses entreprises, même dans celles dans lesquelles j'interviens, où j'allais dire, pour faire sortir un schéma un petit peu simple, trop vieux, trop cher.
Oui, c'est un peu ça, c'est comme ça qu'on est perçu, effectivement.
Donc moi, je dirais qu'aujourd'hui, en tout cas, si j'ai l'opportunité dans mes missions, dans mes accompagnements, de porter un regard un peu nouveau ou en tout cas un peu éclairant, c'est de se dire qu'aujourd'hui, jeunes et moins jeunes, c'est pas qu'ils n'ont pas envie de travailler, bien au contraire, même les jeunes. Hein, aujourd'hui, j'entends la nouvelle génération n'a pas envie de travailler. Non, je pense qu'aujourd'hui, par exemple, les jeunes, ils sont sans doute peut-être un petit peu plus cash que nous, on a pu l'être au même âge, c'est que ils vont pas mettre leur confort ou leur famille ou leurs objectifs de côté. Il faut qu'on soit, j'allais dire, organisationnellement compatible avec eux. Donc c'est peut-être aussi, en tout cas moi c'est modestement ce que j'ai en tête, c'est avoir des projets qui permettraient d'embarquer le plus grand nombre, jeunes, moins jeunes, pour que ça soit pas juste du travail avec un salaire, mais plutôt l'emploi avec de la passion, avec si certains sont passionnés par les arts ou par un quelconque passion qui peut les motiver au quotidien et au long terme surtout.
C'est ça.
Et puis ramener à l'ancrage dont je vous ai parlé tout à l'heure, tout ce qui est l'ancrage ESG, environnement, sociétal, gouvernance d'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, de toute façon, force est de constater que les entreprises, elles ont du mal à recruter.
Oui.
Il y a des emplois qui ne sont pas pourvus, donc j'allais dire, on ne peut plus s'en désoler. Mais je pense qu'il faut aussi que, autant ceux qui cherchent du travail doivent se poser les bonnes questions, mais aussi, à mon avis, les entreprises doivent aussi se poser les bonnes questions. C'est pourquoi il n'y a pas d'attirance, quels sont les critères sur lesquels on peut les attirer. Et puis, il y a sans doute peut-être un modèle à revoir, parce que ce qui marchait il y a 20 ou 30 ans, ça ne fonctionne plus.
Donc, vous pensez qu'on n'est plus à la page réellement aujourd'hui? Il n'y a pas assez de discussion, il n'y a pas assez de réflexion et de mise au point sur les nouvelles choses à mettre en place?
Oui, tout à fait. Moi, je le constate même dans mon propre métier où j'ai des entreprises avec lesquelles j'ai pu collaborer ou quand je leur parlais du métier des achats, on me disait oui, mais vous savez, les achats, c'est on revient dans les années 80, on mettait aux achats les gens qui avaient un mauvais caractère dont on ne savait pas quoi faire. J'ai dit, écoutez, si vous êtes encore dans ce modèle-là, il va falloir absolument changer de mindset.
Vous n'étiez pas bien vu alors?
Non, c'est pas bien ça. Vu.
Non.
Mais en tout cas, dans les années 80, quand le métier a commencé à émerger, c'était souvent ça.
D'accord.
Parce que c'était ceux qui étaient capables de tenir tête à des fournisseurs et qui étaient capables d'avoir de la valeur ajoutée, mais c'était pas pour les bonnes raisons, entre guillemets.
D'accord.
Aujourd'hui, ce qu'il faut constater, c'est qu'on est plutôt sur du métier technique où il faut quand même avoir une faculté d'anticipation, Il faut maîtriser les outils informatiques d'une manière assez importante. Aujourd'hui, si on vous parle de gestion des risques fournisseurs, et aujourd'hui encore, moi, je constate que les entreprises, ben, le Covid est passé, on a revu sa copie pendant le Covid, et puis on retourne aux vieilles habitudes.
Oui, il y a plein de domaines comme ça, hein. Il y a plein de domaines. C'est vrai ils ont pas forcément renouvelé la manière de faire. Ils ont réussi à faire autrement et différemment pendant la période compliquée. Puis là maintenant que c'est oublié, ben on retourne aux mauvaises habitudes, comme on dit, hein. Alors toutes ne sont pas mauvaises, mais c'est vrai que on reste à ce que c'était avant parce que on sait pas comment vraiment mettre des nouvelles choses en place. C'est vraiment dommage, quoi.
Bah, ne serait-ce qu'à la limite, alors là je vais vous le faire avec moi les choses qui me passionnent. Aujourd'hui, quand on entend parler de blockchain, de métavers, d'intelligence
Oui.
artificielle, beaucoup en ont peur.
Oui, tout à fait. Ce qui est
Alors
compréhensible, parce que souvent on a peur parce qu'on ne connaît pas ou on ne sait pas assez, on ne connaît pas assez des informations essentielles par rapport à ces domaines-là.
oui,
Voilà.
mais
Ce
ça
qui ne
veut
veut
dire
pas
que vous
dire que
voyez.
c'est mauvais ou que c'est pas utile. Mais
Voilà, exactement.
voilà.
Et si je
C'est
ramène ça d'une manière plus générale, moi à mon métier, et après d'une manière beaucoup plus diffuse dans d'autres métiers, plutôt de dire c'est bien, pas bien, c'est quel est l'apport que cela peut amener dans chaque métier,
ça.
et peut-être demain, quelle est la valeur ajoutée que ça va apporter, et comment aussi transmettre cette valeur ajoutée ou cette passion, bah, à la jeunesse, aux moins jeunes, en se disant, bah, voilà, enfin, vous voyez, moi j'ai 57 ans. Ça m'empêche pas aussi aujourd'hui, moi, de m'intéresser de très très près à la blockchain, au métaverse, à l'IA, et voir par exemple dans les achats et la supply, quelle est la valeur ajoutée
Tout à
que ça
fait.
amène.
Ouais. Mais c'est souvent le cas de ces nouvelles choses. On va tout de suite lancer des choses, on va tout de suite mettre en place des choses, alors que derrière, on ne sait pas encore jusqu'où on peut aller avec, et on ne sait pas réellement ce qu'on va pouvoir faire avec. Mais on les met déjà en place pour pouvoir dire, c'est bon, on a commencé quelque chose, voilà. Et c'est dommage un petit peu. Souvent, il faudrait prendre un peu plus de temps pour pouvoir peut-être réfléchir et avoir vraiment les informations nécessaires pour savoir jusqu'où on peut aller et justement pouvoir peut-être avoir ce côté positif plutôt que le côté négatif de la peur et de l'incompréhension du démarrage, quoi. Mais bon,
Alors
ça,
non
c'est
seulement.
après tout, c'est tout le système là qu'il faut revoir, donc ça, c'est autre chose.
Alors oui et non, parce que en fait, si je vous rejoins, non seulement je pense qu'il faut juste prendre le temps d'analyser, mais
Oui.
ça permettrait aussi, et c'est j'allais dire un peu l'objet de notre échange, de former les gens en conséquence. C'est de se
C'est
dire à un
ça.
moment, il y a un nouvel outil, bah, plutôt de laisser des gens sur le côté en disant qu'ils ne comprennent pas, comment je peux les former pour qu'ils adhèrent à l'outil et qu'ils le
Tout à
mettent en
fait.
œuvre dans leur métier. Et ça, je
C'est
pense que
ça.
c'est beaucoup plus vertueux.
Ah oui, ben, je vais vous rejoindre, hein. C'est pas moi qui vais vous dire l'inverse. C'est vrai que voilà, les formations sont très importantes, mais aujourd'hui encore perçues comme des choses utiles dans certains points et pas forcément utiles dans d'autres, ou pris un peu comme étant des solutions annexes. Voilà, et ce qui est dommage aujourd'hui, parce que la formation est très importante aujourd'hui à tout niveau, pour tout type de personnes, pour tout type d'entreprise, pour tout type de sujet. Et il y a les compétences. En France, on a toutes les compétences. On a vraiment moyen de faire tout ce qui est nécessaire. Mais après, voilà, c'est tout un aspect lourd, administratif, technique et autres qui sont pas vraiment à 100% au point au niveau français et qui est compliqué à gérer, quoi, malheureusement.
Oui, mais je dirais que ça peut être, enfin, si on revient sur l'aspect RH dont on parlait précédemment,
Oui,
c'est là où je pense qu'on a vraiment sans doute un axe d'amélioration important
c'est ça.
sur
Oui,
lequel il
parce
va
que c'est
falloir
dans de
travailler.
voilà, c'est tous les métiers qui sont visés là et qui doivent faire partie du groupement de développement de tout ça, effectivement.
Et puis considérer que la formation, bah, j'allais dire la formation initiale pour tous les jeunes. Mais après, lorsqu'on est en carrière, et même aujourd'hui, enfin moi je prends mon cas, aujourd'hui, lorsque je me suis mis à mon compte, je me forme
Oui.
minimum 2 fois par an sur des sujets où je me dis, de toute façon, pour pratiquer mon métier, que ce soit pour traiter ma comptabilité, pour traiter les aspects sociaux, etc., on ne peut jamais tout savoir, et donc se former continuellement, En tout cas, ça me semble essentiel parce qu'au moins, on n'est pas décroché aussi des réalités du
Du
quotidien et des
terrain, tout
exigences du
simplement.
quotidien.
Voilà, tout à fait. Tout à fait. Ben écoutez, Monsieur Perrin, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Est-ce que vous vouliez encore ajouter quelque chose par rapport à tout ça?
Non, non, très bien. Merci de la qualité de l'échange et du consacré.
Merci beaucoup, en tout cas, et puis j'espère vous entendre peut-être sur d'autres sujets, voilà, pas plus tard. Merci beaucoup, Monsieur Perrin, à très vite. Merci à tous nos auditeurs également de nous avoir suivis au niveau de notre podcast sur le sujet de l'ombre à la lumière. Donc n'hésitez pas à nous appeler si vous voulez également faire partie d'un podcast et nous raconter votre histoire par rapport justement à des histoires inspirantes et à ce que vous avez vécu par rapport à un changement de vie ou à une évolution de parcours
N'hésitez
professionnel.
pas à prendre
Contact avec nous. À très vite sur Netiocast. Merci Monsieur Perrin et très bonne journée à tous.
Merci d'avoir suivi notre émission et à très bientôt sur notre chaîne Netiocast.